Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal de 7h avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une nuit cauchemardesque pour plus de 10 000 passagers bloqués dans des TGV.
Trafic paralysé toute la soirée à la suite d'un suicide sur l'axe Paris-Marseille. Nous serons gare de Lyon dans ce journal. Vous le disiez, un instituteur molesté sous les yeux de ses élèves à Argenteuil. Une proviseure frappée, un cocktail Molotov lancé dans la cour d'un lycée de Tremblay en France. Deux agressions contre des membres du corps professoral pour la seule journée d'hier. Dans l'actualité de ce mardi, la piste du sous-marin relancée dans l'enquête sur le naufrage du Bugalette-Braise, et puis cette manifestation spontanée de policiers en civil cette nuit sur les Champs-Élysées. La colère ne retombe pas 10 jours après l'attaque de Viry-Châtillon.
Vos rendez-vous dans cette demi-heure. Le tracé du Tour de France 2017 est dévoilé aujourd'hui. Et nous allons vous expliquer comment est élaboré ce parcours. Auparavant, l'édito d'RTL Matin avec les conséquences catastrophiques du livre de confidence de François Hollande. Ses proches sont totalement déboussolés, nous dira Alba Ventura.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Mais d'abord ce matin, ces deux agressions hier contre des membres du corps professoral.
Oui, nous allons à Argenteuil dans le Val d'Oise. Hier matin, donc, un instituteur a été frappé sous les yeux de ses élèves de CE2. Vous êtes sur place pour RTL, Cindy Hubert.
Oui, l'agression a eu lieu en pleine rue, il est presque midi. Les écoliers reviennent à pied d'un cours de sport. Sacha Hutte dans les rangs. Une petite fille est en train de dire des gros mots. Elle se fait gronder par le maître. C'est à ce moment-là que deux jeunes hommes surgissent d'une voiture. Coup de pied, coup de poing au visage. L'instituteur de 50 ans tombe au sol devant ses élèves sur le trottoir. L'agression va durer seulement quelques minutes. Ce qui se dit au milieu des coups nous est rapporté par des syndicats de professeurs. Les agresseurs aurait accusé l'instituteur d'être raciste avant de proclamer « Il n'y a qu'un seul maître, c'est Allah ». Ce matin, c'est évidemment une école sous le choc qui va rouvrir ses portes dans un peu plus d'une heure. Une cellule psychologique devrait être mise en place. L'enseignant, lui, est sorti de l'hôpital. Il a promis d'être là ce matin face à sa classe.
Cindy Hubert à Argenteuil pour RTL. Et puis, autre agression en Seine-Saint-Denis, à Tremblay en France. Un cocktail Molotov a atterri dans la cour d'un lycée hier. La proviseure, sortie pour échanger avec les fauteurs de troubles, a été frappée, elle aussi, au visage. C'est la troisième fois en 10 jours que l'établissement fait l'objet de violences sans raison apparente.
À 8h moins le quart, je vous le rappelle, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, est l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL.
La ministre de l'Éducation nationale qui viendra aussi dévoiler son plan de lutte contre les absences de profs non remplacés. Ça représente au moins 4700 journées de classe depuis la rentrée, selon la FCPE, Association de parents d'élèves.
RTL Matin, 7h03.
La piste d'un accident provoqué par un sous-marin est relancée plus de 12 ans, je dis bien 12 ans, après le naufrage du Bugalette-Braise.
3 morts, 2 disparus en janvier 2004. Une enquête qui s'est soldée par un non-lieu et un coup de théâtre ce matin. Patrice Gabart, le télégramme de Brest a la confirmation qu'un sous-marin était bien présent sur la zone.
En effet, selon nos confrères du Télégramme qui ont eu accès à des documents déclassifiés de l'US Navy, il y avait bien un sous-marin nucléaire d'attaque américain en Manche le jour du naufrage du Bugalette-Braise, comme l'indiquait dès 2010 dans son rapport l'expert sous-marinier Dominique Salle, un expert qui évoquait alors la présence sur zone d'un sous-marin espion américain venu surveiller le transport par bateau de déchets nucléaires de Cherbourg vers le Japon. Une piste jugée douteuse et qui n'a pas vraiment été explorée. Or, ce sous-marin nucléaire d'attaque a maintenant un nom, l'USS Hyman Recover, envoyé en Atlantique Nord de décembre 2003 à février 2004 dans le cadre d'une mission antiterroriste et qui aurait même fait une escale à Portsmouth, quand cela reste à déterminer. Mais ce nouvel élément qui devrait être versé à l'inquest, l'enquête menée actuellement en Grande-Bretagne sur le naufrage du Bugalette-Braise, pourrait bien aussi relancer l'enquête en France après le non-lieu de la cour d'appel de Rennes qui avait alors révolté les familles et les proches des victimes.
Patrice Gabart.
Et on va prendre maintenant la direction de la gare de Lyon à Paris.
Oui, pour cette énorme pagaille sur l'axe Paris-Marseille, une vingaine de TGV bloqués, 10 à 12 000 passagers qui ont dû patienter pendant des heures. Le trafic n'a repris qu'un peu après minuit. Tout est parti d'un suicide sur les voies près d'Auxerre. Vincent Serrano, vous êtes gare de Lyon, donc pour RTL.
Oui, exactement, gare de Lyon, où c'est un petit peu la pagaille actuellement, puisque des trains sont annoncés avec des retards de 30 minutes. Un train, en particulier à 7h30, est annoncé avec un retard de 2 heures. La raison, elle est simple, c'est qu'un train a été aménagé en hôtel de secours pour ces centaines de passagers qui n'ont pas réussi à prendre un taxi, hein, puisque les taxis ont été pris d'assaut, des files d'attente de 2 à 3 heures pour trouver un taxi. Même chose pour les hôtels, du coup, la SNCF leur a affrété une rame inquiets, entiers. Des personnes qui ont passé 3 à 5 heures à dormir dans des trains. J'ai croisé des parents, des enfants qui dormaient dans ces wagons et qui sont très énervés par la situation qui a été mal gérée, selon eux, et le manque d'informations, surtout après cette incident sur ce Ouigo. Et voilà, je vous dis, la situation est en train de s'améliorer, mais très très difficilement, puisqu'il y a toujours des trains annoncés avec au moins 30 minutes de retard.
Et les passagers, justement, on va écouter un témoignage. Il s'agit de Karine, qui a été donc bloquée pendant de très longues heures à bord d'un train. Écoutez-la.
On nous a proposé soit d'être hébergé sur Marne-la-Vallée, qui n'était pas très pratique pour avoir des trains pour 6h ou 7h ce matin, ou bien de venir dormir dans un wagon comme celui-ci. Voilà. Donc on a passé quelques heures à essayer de dormir. Pour les enfants, je pense que c'est certainement très compliqué pour les parents qui doivent assumer cette situation. Mais voilà.
Voilà, des propos donc recueillis par Vincent Serrano. La SNCF indique à RTL qu'elle ne prévoit pas d'indemnisation, hein, comme c'est toujours le cas quand il s'agit d'un suicide. L'entreprise étudie tout de même d'éventuelles mesures compensatoires. Je vous le disais en titre, image surprenante cette nuit, des policiers en civil dans des voitures banalisées, gyrophares allumés autour de l'Arc de Triomphe. Manifestation spontanée, 10 jours après l'agression de Viry Châtillon. Ils réclament des moyens supplémentaires. Ils ont perturbé le trafic pendant une partie de la soirée sur les Champs-Élysées. En bref, en Irak, la bataille de Mossoul prendra du temps, mais tout se déroule comme prévu. C'est ce qu'indique cette nuit le Pentagone. Et puis de l'autre côté de la frontière en Syrie, les Russes annoncent une courte trêve humanitaire pour le milieu de la semaine à Alep afin de permettre le départ des populations assiégées.
RTL Matin, il est 7h07.
On va revenir maintenant sur le document RTL diffusé hier soir chez Marc-Olivier Fogiel. Les interrogations du frère de Salah Abdeslam.
Le seul terroriste encore en vie après les attentats du 13 novembre se mure dans le silence. Son frère Mohamed le supplie sur RTL de s'expliquer. Et puis il a cette phrase, vous allez l'entendre, il se demande s'il ne va pas siéger lors du procès du côté des victimes, du côté des parties civiles.
Il m'arrive parfois même à me poser la question de savoir dans quel camp je vais être. Est-ce que je vais être du côté des parties civiles ou est-ce que je vais être de l'autre côté? Parce que quoi qu'ait fait Salah, il a un rôle quand même déterminant. Et c'est extrêmement difficile.
Vous attendez beaucoup de ce procès ?
Oui, j'attends beaucoup de ce procès. C'est quelque chose qui va être déterminant. On sait très bien que Salah sera présent. Et je pense que les familles attendent ça aussi.
Alors les victimes, justement, elles sont surprises par cette déclaration. Écoutez Emmanuel Domenac, un rescapé du Bataclan.
Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, très sincèrement. Le fait d'avoir été une victime, le fait d'avoir perdu quelqu'un, le fait d'avoir risqué sa vie, sauvé sa vie face à des terroristes armés de Kalachnikov, c'est pas pareil qu'avoir un frère, deux frères qui ont mené des attaques. On n'est pas dans la même situation et vouloir mélanger les genres serait, à mon avis, quelque chose de dangereux pour quelqu'un qui tient des propos très raisonnables et pour qui je n'ai aucune haine.
Voilà, Emmanuel Domenac, rescapé du Bataclan.
Et toute l'intégralité de l'interview de Mohamed Abdeslam est à retrouver sur le site rtl.fr.
Manuel Valls est-il en train de poser des jalons pour la présidentielle? Discours remarqué hier soir dans son fief d'Evry sur le thème de la laïcité et de l'islam. En 3 phrases, il a fait entendre sa différence avec Alain Juppé, chantre d'une laïcité ouverte, Emmanuel Macron qui fustige une laïcité revancharde et surtout François Hollande qui estime dans un livre de confidence que l'islam est un problème. Écoutez le Premier ministre.
Trop souvent, on affuble la laïcité d'adjectifs pour mieux la tordre. On la veut ouverte. Je ne sais pas bien ce que cela veut dire. On l'a dit revancharde. Je ne sais pas bien ce que cela veut dire non plus. L'islam, certes, pose des défis considérables, mais il n'est pas le problème.
Manuel Valls, propos recueillis pour RTL par Vincent Derosier.
La mairie de Paris évolue sur le travail le dimanche.
Oui, la maire Anne Hidalgo souhaite accorder l'année prochaine jusqu'à 12 dimanches ouverts pour les commerçants. C'est ce que disent les Échos ce matin. Elle faisait pourtant partie des opposants les plus farouches à la loi Macron. Ses proches mettent en avant la nécessité d'apporter un surcroît d'activité après la baisse de la consommation qui a suivi les attentats. Soutenir les éleveurs tout en aidant les réfugiés, c'est une initiative européenne qui a été annoncée en fin de semaine dernière. L'idée est d'écouler des stocks d'excédents. Elle est plutôt bien accueillie sur le terrain. Reportage RTL en Alsace, Yannick Holland.
Dominique Dole est éleveur de vaches charolaises à Pfetisheim, une race à viande recherchée dont le prix a chuté de 15%. Il y a trop de viande sur le marché européen à cause de l'embargo russe, mais aussi à cause de la crise du lait.
L'Europe, effectivement, soutient les éleveurs laitiers pour diminuer la production laitière. Les vaches, aujourd'hui, partent à l'abattoir et il y a un afflux, effectivement, massif sur le marché de la viande.
Au total, 1 million de vaches laitières supplémentaires envoyées à l'abattoir en 2016, ce qui a totalement déstabilisé le marché. Et pour Dominique Dole, ce serait donc une bonne chose que les surplus soient utilisés pour les réfugiés syriens en Turquie ou au Liban.
Ça me semble une très bonne idée. D'une part, pour effectivement aider ces réfugiés, il faut absolument effectivement que l'Europe prenne aussi ses responsabilités à ce niveau-là. Et ça passe, à notre avis, par une aide alimentaire. Et si en plus on peut soutenir les éleveurs en aidant les autres et les réfugiés, je pense qu'effectivement c'est une très très bonne initiative de la part de l'Europe. Il faut absolument qu'elle le fasse. L'avenir des éleveurs européens en dépend.
Dominique Daul espère maintenant que la Commission européenne suivra les ministres de l'agriculture français, allemand et polonais qui ont fait cette proposition.
Yannick Holland.
Les sports, et s'il n'y avait pas les Alpes entre les deux, on parlerait de derby.
L'Olympique lyonnais accueille la Juventus de Turin. La Juve est leader du championnat italien. Troisième journée de la Ligue des champions qui verra aussi s'affronter le CSKA Moscou et Monaco. Le coup d'envoi à 20h45.
Et dès 20h, et ce jusqu'à minuit, soir de Ligue des champions sur RTL, bien entendu.
Et puis je termine par cette déclaration de Franck McCourt qui annonce 200 millions d'euros d'investissement pour les 4 prochaines années à l'Olympique de Marseille. Le nouvel actionnaire américain a officiellement pris les commandes hier.
Feu d'artifice sur la Canebière. C'était le journal de Jérôme Chapuis.
RTL Matin, il est 7h11, c'est l'heure des pronostics hippiques et les chevaux prennent l'air de la mer. À Deauville aujourd'hui.
Les pronostics de Bernard Glass. Bonjour Bernard.
Bonjour Yves, c'est le début d'une semaine de course où l'on va se rendre souvent sur la côte normande. Le quintet est à Deauville et ils sont 16 au départ de ce prix de série. Voici mon prono: Versaline le 5, Elusive Dancer le 6, De Bonalois le 2, Smart Whip le 11, Chalouska le 7, Art of Zapping le 14, Mister Smart le 10 et Samir le 3. Versaline a trouvé la distance trop longue lors de sa dernière tentative. Elle retrouve un meilleur parcours. C'est ma favorite. La dernière minute est Art of Zapping. Il est irrégulier, certes, mais sa dernière tentative contre quelques-uns de ses adversaires du jour a été prometteuse. J'en attends une confirmation. Donc le 5 et le 14 pour un jeu spéculatif dans cette quatrième épreuve du jour, alors qu'il y a ce soir à Vincennes une belle nocturne de gala.
Bonne chance à tous.
32-10 sous notre site onrefaitlescourses.fr pour les pronostics et les résultats de nos spécialistes.